Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la possibilité de te prier et te demander de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions effectivement veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, car nous le savons, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc selon vous, de quoi notre église locale a-t-elle le plus besoin aujourd'hui? De plus de zèle dans son témoignage et de plus de soirées à vous de voir. Pourquoi pas? On pourrait faire 8 soirées à vous de voir par an au lieu de 4 soirées à vous de voir. De plus de morale et d'intégrité personnelle. Pourquoi pas? De plus de générosité et de justice sociale. Pourquoi pas? Je pense que nous avons tous besoin de faire des progrès dans tous ces domaines, n'est-ce pas? En tout cas, je parle pour moi. Mais ces manquements dans tous ces domaines sont, à mon sens, symptomatiques d'un manquement qui est encore plus important, et il s'agit de la prière. Prière ou parole adressée à Dieu. Prier, c'est avant tout parler à Dieu. Et la question qui se pose, que je me pose et que je vous pose, c'est pourquoi ai-je parfois tant de mal à prier alors que je suis parfaitement conscient que prier est tellement important? Pourquoi ai-je parfois tant de mal à prier alors que je suis conscient que prier est tellement important? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que nous vivons dans un monde, une société, un pays, la France, qui nous apprend les règles de l'autodépendance et de l'autosuffisance des bancs de l'école primaire jusqu'aux amphithéâtres du milieu universitaire. Hein. J'ai souvent entendu dire que je n'avais besoin de rien ni de personne pour réussir dans la vie, que je pouvais finalement y arriver tout seul. Il fallait que j'aie confiance en moi. Je me rappelle lorsque j'ai arrêté de travailler pour le ministère de la Défense, l'une de mes collègues avec laquelle j'avais beaucoup discuté de Dieu m'a offert un livre. Pas du tout chrétien. Et parfois, quand vous offrez un livre à quelqu'un, vous lui mettez un petit mot. Et vous savez ce qu'elle m'a mis comme petit mot? Aie confiance en toi. Okay. C'est la première raison, je pense. Hein. La prière est vraiment un défi, un sacré défi lancé à mon autodépendance, à mon autosuffisance. J'ai besoin de quelqu'un d'autre, en fait, pour réussir dans la vie. Je ne peux pas y arriver tout seul. Il faut que j'aie confiance en Dieu. Vous comprenez comment la prière constitue vraiment un défi lancé à ma vie de prière en tant que citoyen contemporain du XXIe siècle. Seconde raison nous amène parfois à ne pas prier, c'est que toutes les excuses sont bonnes pour ne pas prier. On a toujours de bonnes raisons de ne pas prier, pensons-nous. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans un premier temps. Donc j'aimerais voir deux choses. Premièrement, trois mauvaises raisons de ne pas prier, premièrement. Et deuxièmement, trois bonnes raisons de prier. Premièrement donc, trois mauvaises raisons de ne pas prier. Et parmi ces raisons, il y a celle-là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet avocat dont la cardiaque tombe en panne au bord de la route? Vous connaissez cette histoire? Non? Je vous la raconte. Même pour Faustine qui la connaît déjà. C'est l'histoire de cet homme d'affaires, un avocat qui tombe en panne au bord de la route. Il a une Cadillac et un couple s'arrête pour l'aider. D'accord? Gilles et Yvette vont en vacances voir leur fils à Castres et puis ils s'arrêtent pour aider cet homme en panne au bord de la route. Que lui est-il arrivé? En fait, il savait que son réservoir était presque vide quand il est parti de chez lui. Mais il était tellement pressé, parce qu'une réunion de travail l'attendait, qu'il n'a pas pris le temps de faire le plein. Heureusement, Gilles et Yvette ont 5 litres d'essence dans leur coffre. Et là, la Cadillac repart, comme en 40. 20 km plus loin, Gilles et Yvette, en réalité, tombent sur le même homme, au bord de la même route, avec la même Cadillac. Et là, le problème, quel est-il? Accident? Crevaison? Non. Notre homme était tellement pressé qu'il a décidé de ne pas s'arrêter à la station-service pensant que les 5 litres d'essence allaient être suffisants pour lui permettre de se rendre sur son lieu de travail. Alors, si je puis me permettre, comment qualifier la conduite de cet homme ? Risquée ? Inconsciente ? Irresponsable ? Moi, je dirais stupide, personnellement. Mais le problème, c'est que j'adopte la même conduite quand il s'agit de prier. Donc, je peux m'appliquer à moi-même ces qualificatifs. Risqué, inconscient, irresponsable, stupide. J'adopte parfois la même conduite quand il s'agit de prier. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prier. Comme si le temps, d'ailleurs, m'appartenait. Comme si c'est moi qui l'avais créé. Et comme si ce temps était mon temps. Je ne vais pas mettre ce temps à la disposition des autres et de Dieu. C'est mon temps. C'est moi qui l'ai créé, par conséquent. C'est théologiquement très risqué. Première raison, mauvaise raison de ne pas prier, j'ai pas le temps. Deuxième, mauvaise raison de ne pas prier, j'ai pas envie. Quand je suis fatigué, découragé, stressé ou contrarié, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de prier. Vraiment pas envie de prier. Hein. Je préfère prier quand je serai moins fatigué, quand je serai moins stressé, moins découragé, moins contrarié. Bref, quand j'en aurai envie. Mais je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais en fait deux présuppositions très dangereuses se cachent derrière cette attitude. La première présupposition, ou le premier postulat, c'est que l'acceptabilité de mon approche de Dieu dans la prière dépend de mon état émotionnel. Ce qui est totalement faux. En fait, l'acceptabilité de mon approche devant Dieu ne dépend pas de moi, mais de ce que Jésus a fait pour moi. Autrement dit, mon approche de Dieu est acceptable en toutes circonstances, que je sois fatigué ou pas fatigué, stressé ou pas stressé, contrarié ou pas contrarié. Je vous renvoie à Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23, pour nous encourager dans ce sens. Que notre approche de Dieu est acceptable en toutes circonstances, indépendamment de notre état émotionnel. Et la deuxième présupposition qui se cache derrière cette attitude, j'ai pas envie de prier, en fait, c'est que la responsabilité de prier m'incombe seulement quand j'ai envie de prier. Et ça, c'est non seulement faux, mais c'est très égoïste, n'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très égoïste parce que cette attitude revient à dire finalement que je décide de prier quand j'en ai envie. D'accord ? Or, Dieu nous m'exhorte à prier, encore une fois, mais en toutes circonstances. Hein. Je vous cite 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 17 et 18. « Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, c'est-à-dire remerciez, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Priez sans cesse, en toutes circonstances. Deuxième mauvaise raison de ne pas prier, j'ai pas envie. Troisième et dernière raison, mauvaise raison de ne pas prier, j'ai trop honte. Alors là, c'est un peu plus subtil, mais j'espère que vous allez me suivre. Je vous propose de revenir aux origines de l'humanité avec moi. Genèse 1 et 2, Dieu crée le monde et les hommes en leur confiant certaines responsabilités hein, et sous son autorité. Et là, dans un acte de rébellion incompréhensible, les hommes décident de désobéir à Dieu. Ils désobéissent à la seule et unique loi que Dieu leur a donnée. Ce qui entraîne une rupture de relation entre Dieu et les hommes, entre les hommes entre eux et puis entre les hommes et la création. Et voilà la réaction d'Adam et Ève suite à cet acte de rébellion. Je vous lis Genèse chapitre 3, versets 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin dans la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Le premier sentiment de culpabilité de toute l'histoire de l'humanité est né. Après avoir péché, l'homme et la femme se cachent devant Dieu, parce qu'ils ont peur de lui. Alors, c'est vrai que cet sentiment de culpabilité est lié à leur nudité, hein, j'en suis bien conscient. Mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils savent qu'ils ont péché, parce qu'ils savent qu'ils sont coupables devant lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la même expérience dans votre vie, mais la culpabilité nous empêche parfois de prier. Elle crée parfois une barrière entre nous et Dieu. Après avoir péché, j'ai parfois honte ou même peur de Dieu, ce qui me détourne de lui. Alors que je devrais plutôt me tourner vers lui, hein, parce que Dieu est le seul capable finalement, et le seul prêt à me pardonner. Deux versets pour nous en convaincre, hein, psaume 103, versets 8 et 10. « L'Éternel est compatissant et il fait grâce, Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Et puis le psaume 130, versets 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Vous voyez comment, en fait, on devrait vraiment être encouragé à se tourner vers Dieu. Parce que c'est le seul capable, non seulement, mais prêt à nous pardonner, en toutes circonstances. Nous n'avons donc aucune excuse de ne pas prier. Aucune. Toutes les excuses que nous trouvons, à mon sens, sont de mauvaises raisons. Mais la question qui se pose maintenant, et que vous posez peut-être dans le secret de vos cœurs, dans votre fort intérieur, c'est celle-ci. Pourquoi prier si Dieu est omniscient? S'il sait tout? S'il est souverain? Pourquoi dire à Dieu ce qu'il sait déjà? Eh bien, c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans un second, dans un dernier temps. Après trois mauvaises raisons de ne pas prier, j'aimerais voir avec vous trois bonnes raisons de prier. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, je ne vois pas encore de fumée sortir de vos oreilles. Ça veut dire que je ne vous ai pas encore trop fait réfléchir, mais là, il va peut-être falloir vous accrocher. Courage, Jésus a vaincu le monde. Trois bonnes raisons de prier. Première raison de prier, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Surpris? Alors, le but de cet exposé n'est pas de rentrer dans le débat de la souveraineté de Dieu, d'accord? J'essaie de présenter les choses de manière aussi objective que possible, on peut en parler. Mais il me semble que la Bible brosse le portrait d'un Dieu qui est souverain, dans le sens où il n'y a personne au-dessus de lui. Autrement dit, comme le disait l'un de mes profs à la fac de Vaux-sur-Seine, au ciel, il n'y a qu'un seul chef, c'est Dieu. Dieu n'a pas de rival, un peu comme dans la guerre des étoiles, ok? Où deux forces contradictoires s'opposent, le bien d'un côté, le mal de l'autre. C'est ce qu'on appelle le dualisme. Et je ne trouve pas de traces de dualisme dans la Bible. Je trouve des traces d'un Dieu qui est totalement, radicalement, souverain, d'accord, qui dirige, maîtrise, contrôle toutes choses selon un plan qu'il a prévu d'avance. Dieu fait ce qu'il veut, d'accord. C'est le psaume 115 et le verset 3 qui le dit. Alors, je suis conscient que c'est une réalité absolument vertigineuse, hein, le fait que Dieu contrôle, maîtrise et dirige toutes choses selon un plan qu'il a prévu d'avance. Mais c'est aussi une réalité extrêmement rassurante, je pense, dont témoignent par exemple plusieurs versets. Je pense à Proverbe 16:33 par exemple. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel quand même, ok? Mais on jette le sort dans le pan de la robe. Et puis Éphésiens chapitre 1 verset 11. En lui, en Christ, nous avons aussi été mis à part. Si vous avez placé votre confiance en Christ, vous êtes concerné, hein. Nous avons été prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Certaines versions traduisent selon le conseil de sa volonté, littéralement selon la volonté de sa volonté. Et en fait, l'originalité de la Bible consiste à enseigner la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme en même temps. Et c'est ça qui rend la chose difficile à comprendre. C'est que ce sont deux réalités spirituelles que la Bible enseigne, mais en même temps. D'un côté, il y a une cause première, qui est la souveraineté de Dieu, d'accord, totale, absolue. Et d'un côté, il y a une cause seconde, qui est la responsabilité des hommes. Et le mystère, j'en conviens, consiste à comprendre comment Dieu, une cause première, œuvre au travers d'une cause seconde, sans atténuer sa responsabilité. Ça, j'avoue que ça relève du mystère. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas du tout une contradiction. La Bible ne dit pas d'un côté Dieu est souverain, de l'autre côté Dieu n'est pas souverain. Où elle ne dit pas d'un côté les hommes sont responsables et de l'autre côté les hommes ne sont pas responsables. Elle ne dit pas ça du tout. Elle dit que d'un côté Dieu est totalement souverain et que de l'autre les hommes sont totalement responsables. Ce n'est pas une contradiction, c'est une tension. Et qu'il nous appartient de maintenir en équilibre un petit peu, comme le fait à mon sens la Bible. Juste un exemple, hein, pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de dire dans la pensée de l'apôtre Paul, la coexistence de cette souveraineté de Dieu et de la responsabilité individuelle mais ne pose aucun problème. Aucun problème. Philippiens 2, par exemple, 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Là, il met l'accent sur, là, mais la responsabilité individuelle. Hein. Philippiens, travaillez à votre salut. Verset suivant, verset 13. Car Pourquoi? Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Mais ce que vous avez vu dans ce verset, je pourrais vous en citer une dizaine, comment la coexistence de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité individuelle me ne pose absolument aucun problème. Ces deux principes ne sont pas du tout contradictoires. Ils sont même complémentaires. Pourquoi? Parce que c'est en vertu de la souveraineté de Dieu que les croyants que nous sommes peuvent et veulent agir, sans forcément être exonérés de toute responsabilité. Hein. Et cette complémentarité est également perceptible dans d'autres textes bibliques, tels que Genèse, chapitre 50, verset 20, l'histoire de Joseph. On va apprendre, en fait, avec le recul, que Dieu s'est servi de la cruauté des frères de Joseph pour faire le bien. Ésaïe, chapitre 10, verset 5 à 19, ce passage qui rappelle comment Dieu va se servir de l'Assyrie, en fait, pour juger son peuple, sans remettre en question la responsabilité hein, des Assyriens. Acte 4, verset 23 à 30, où là on va apprendre de manière hallucinante que Dieu va utiliser en fait le conseil d'Hérode et de Pilate et s'en servir pour condamner Jésus à mort. Et puis acte 18, verset 9 et 10, où on apprend en fait que Dieu a un peuple nombreux dans une ville et que Dieu va se servir de ça pour encourager les gens à évangéliser. Hallucinant. Coexistence de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité individuelle. Pas une contradiction, une tension. Dieu, à mon sens, en tout cas, est vraiment souverain, mais cette souveraineté ne réduit donc en rien la responsabilité des hommes, qui sont appelés à croire en Dieu. Et c'est pour ça que de nombreux passages nous invitent à nous repentir et à croire. Ézéchiel 18, par exemple, « Convertissez-vous donc et vivez !» À obéir et à prier. Et je crois que cette souveraineté de Dieu est même plutôt présentée comme une motivation pour la prière. Et j'irai même encore plus loin. Je dirais que si Dieu n'est pas souverain, nous ne pourrions même pas prier. Et que si vous pouvez prier aujourd'hui, c'est que vous confessez implicitement la souveraineté de Dieu. Je vais essayer de vous en convaincre. Trois exemples. Allez, deux. Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. Quelques versets sur lesquels on passe assez rapidement et qui pour moi révèlent que la souveraineté de Dieu nous permet de prier. Moi, Daniel, prophète, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Qu'est-ce qui se passe dans ces versets? C'est très intéressant. Hein, le prophète Daniel comprend, en lisant le texte nous dit, les livres. En fait, il s'agit de Jérémie, chapitre 25, des versets 11 à 12. Qu'est-ce que Daniel comprend en lisant ce passage? Il comprend que Dieu est en train d'accomplir sa promesse pour son peuple. Et cette promesse, c'est laquelle? C'est la promesse du retour du peuple de l'exil, notamment. Et là, un fataliste aurait simplement attendu avec impatience la délivrance promise, sans même prier. Mais pourquoi prier? Puisque Dieu est souverain et qu'il va accomplir sa promesse. Je lis Jérémie, Dieu va accomplir sa promesse. Ok, hein, je prends un café et puis je vais passer un week-end tranquillement à Saint-Pierre-de-Beuf. Quoi. Mais que fait Daniel? Mais il prie, mais c'est hallucinant, regardez, il prie, hein. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Vous voyez comment la souveraineté de Dieu et l'imminence de l'accomplissement de sa promesse n'empêchent pas du tout Daniel de prier. Au contraire, sa prière se fonde sur quoi? Sur la souveraineté de Dieu. Il prie pour la fin de l'exil parce que Dieu l'a promis. Incroyable. Deuxième exemple, Matthieu chapitre 6, verset 8. Et 9. Voici ce que Jésus dit. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. Et qu'est-ce que Jésus dit? Voici donc comment vous devez prier. C'est hallucinant. Dans ces versets, Jésus ne dit pas Dieu sait de quoi vous avez besoin, par conséquent, ben, ne priez pas. Pas la peine de prier. Mais il dit le contraire. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Par conséquent, priez. Dernier exemple. Je ne résiste pas. Jean, chapitre 17, verset 1. Voici ce que Jésus dit. Père, l'heure est venue. Jésus va mourir. Hein. Glorifie ton fils afin que le fils te glorifie. Alors, l'implication est peut-être un peu plus subtile là, mais dans ce verset, Jésus ne dit pas dans la mesure où le Père a prévu d'avance le temps de ma glorification, c'est-à-dire le temps de ma mort et de ma résurrection, ben, il est inutile de prier. Mais il dit le contraire. Le Père a prévu d'avance le temps de ma glorification. Par conséquent, moi, Jésus, je prie. Père, glorifie ton Fils. Vous voyez? comment ce que Dieu a prévu d'avance n'empêche en aucun cas Jésus ou les prophètes de prier, mais au contraire, les encourage, les motive à prier. Et l'application pratique de ces passages pour nous aujourd'hui est vraiment capitale. Dieu s'attend, enfin, Dieu veut plutôt, Dieu veut, que Dieu s'attend, ça l'a fait mal, Dieu veut que nous prions, même si nous connaissons sa volonté. Dieu veut que nous prions parce que nous connaissons sa volonté. Et là, je vous pose cette question, mais est-ce que nous prenons vraiment la mesure de ce que nous faisons quand nous prions, quand nous adressons une parole à Dieu? Avons-nous conscience que nous confessons implicitement la souveraineté de Dieu? C'est pour ça que je rigole quand j'entends certaines personnes me dire que Dieu n'est pas souverain et me dire qu'il prie en même temps. Mais est-ce que nous avons conscience que nous confessons implicitement la souveraineté de Dieu quand nous prions? Je rigole. Je respecte ces gens, bien sûr, je les aime. Mais je me pose des questions. Quelles sont nos présuppositions quand nous prions, par exemple, que nos amis chrétiens se convertissent? Quelles sont nos présuppositions? Une telle prière présuppose que Dieu est capable d'œuvrer de manière totalement miraculeuse dans le cœur d'une personne qui ne le connaît pas et d'influencer ses décisions. Mais comment dire? Mais seul un Dieu totalement souverain peut agir de cette manière. Ce que nous confessons, à mon avis, quand nous le demandons d'agir de cette manière. Vous comprenez pourquoi la prière requiert, nécessite, confesse implicitement la souveraineté de Dieu? Si nous pouvons vraiment prier, c'est parce que Dieu est souverain, et c'est une bonne nouvelle. Première raison de prier, donc, la souveraineté de Dieu. Deuxième raison, beaucoup plus rapidement, je vous rassure, deuxième bonne raison de prier, c'est la grâce. Ça tombe bien puisque nous sommes dans une maison baptisée la grâce, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais pourquoi finalement pouvons-nous prier? Pourquoi? Quelle est la légitimité de la prière? Après tout, la prière ne fait pas partie des droits de l'homme, à ma connaissance en tout cas. Nous prions parfois comme si la prière était indue. En fait, la prière n'est pas indue, la prière n'est pas un droit. Je pense vraiment que la prière est une grâce. Si nous pouvons prier, c'est uniquement grâce à Dieu qui nous invite à prier, alors qu'il n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Après tout, si Dieu est Dieu, a-t-il vraiment besoin de nous pour accomplir sa volonté? Pourquoi nous demande-t-il de prier finalement, s'il sait tout, s'il est Dieu et s'il est capable d'accomplir lui-même sa volonté? Je pense que c'est parce que dans sa grâce, Dieu veut nous utiliser justement pour l'accomplissement de ses plans et qu'il veut faire de nous, de vous-même, des partenaires de ses projets. Il veut que ses projets soient nos projets. Il veut que ses projets soient vos projets. Il veut que ses priorités soient vos priorités. Il a à cœur que nous ayons à cœur ce qu'il a à cœur. Je répète. Dieu a à cœur que nous ayons à cœur ce qu'il a à cœur. Par exemple, pourquoi prier pour les chrétiens persécutés? Vous connaissez le site de Porte Ouverte qui nous invite à prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Pourquoi prier pour les chrétiens persécutés? Pourquoi Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont persécutés? N'est-ce pas parce que Dieu aime, par exemple, qu'une partie de son corps s'associe à une autre partie qui souffre? Et c'est biblique, 1 Corinthiens 14, quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous voyez comment Dieu veut que nos projets soient ses projets, que Dieu aime que nous aimions ce qu'il aime. Je pense que vraiment Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont à cœur ce qu'il a à cœur, qui aiment ce qu'il aime. Dans sa grâce, Dieu nous demande de prier. Dans sa souveraineté, Dieu nous permet de prier et de participer ainsi à l'accomplissement de ses projets pour le monde. Il en est l'auteur ultime, mais il se sert de nous pour l'accomplissement de ses projets. Quelle joie! Quelle joie! Et quel privilège ce devrait être de prier dans ce but. Deuxième bonne raison de prier, la grâce. Troisième et dernière bonne raison de prier, c'est l'efficacité. L'efficacité. Si nous pouvons prier, c'est parce que la prière est efficace. Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste, le juste là, c'est entre autres le croyant qui a à cœur ce que Dieu a à cœur. La prière agissante du juste a une grande efficacité, nous dit ce texte. Et la question qui se pose, c'est comment expliquer l'efficacité de la prière? Qu'est-ce qui rend la prière efficace? Est-ce une certaine ferveur extérieure? Alors c'est possible, hein? Dieu aime que nous exprimions nos émotions à haute voix. Il aime que nous nous abandonnions émotionnellement, hein, à haute voix, par exemple. Mais ce type de ferveur ne garantit pas nécessairement, hein, l'efficacité de la prière. Dieu entend et exauce aussi les prières faites dans le secret de nos cœurs. Et là, je pense notamment à Anne, dans l'Ancien Testament, hein, qui prie, et le texte nous dit que seules ses lèvres remuaient, et qu'on n'entendait même pas le son de sa voix. Et pourtant, Dieu l'a exaucée. 1 Samuel, chapitre 1, verset 13. Alors, qu'est-ce qui rend la prière efficace, si ce n'est pas la ferveur extérieure de la prière? Est-ce que c'est la quantité de nos prières? Alors, c'est vrai que Dieu nous demande de persévérer dans la prière, n'est-ce pas? Mais Jésus attire aussi notre attention sur l'inutilité de multiplier les paroles. Et là, je cite l'une de ces paroles, justement, en priant, Jésus nous dit, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voici donc comment vous devez prier. Et là, le Notre Père, comme nous allons le voir demain, qui est un modèle, mais de brièveté, hein, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis après, il y a un rajout du premier ou de deuxième siècle. Hein. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la gloire pour les siècles. Amen. Point barre, quoi. Enfin, la prière du Notre Père est vraiment un modèle de brièveté de prière. Alors, comment expliquer l'efficacité de la prière? Pourquoi est-ce que nous pouvons avoir l'assurance que nos prières sont efficaces? Eh bien, deux explications possibles, et je m'arrêterai là-dessus, hein, que je soumets à votre discernement. La prière ne serait-elle pas efficace en touchant le cœur de Dieu? La prière ne serait-elle pas efficace finalement en touchant le cœur de Dieu? Comment le cœur de Dieu, un cœur de père, hein, Dieu dans la Bible est présenté comme un père, n'est-ce pas? Comment le cœur de Dieu ne pourrait-il pas fondre en entendant les prières, les requêtes, les supplications de ses enfants? Si vous êtes père ou mère, vous comprenez ce que je veux dire. Il est tellement difficile de résister à la tentation, si j'ose dire, d'accéder aux requêtes, aux prières de nos enfants. Et si vous n'êtes pas encore père et mère, vous comprendrez peut-être ce que je suis en train de dire un jour. Mon cœur de père fond parfois devant la demande d'Emma. Deuxième explication, la prière est efficace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qu'il dit en Jean 14, hein, verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà la source, hein, de l'assurance, de l'efficacité dans la prière faite au nom de Jésus. Nous pouvons avoir l'assurance de l'efficacité de nos prières quand nous prions au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait vraiment débattre longtemps, mais je pense que prier au nom de Jésus revient à prier en accord avec ce qu'il est, avec sa nature, mais aussi avec ce qu'il veut, c'est-à-dire avec sa volonté morale notamment, clairement révélée. Et ce, vous l'avez remarqué dans le texte, dans le seul et unique but de glorifier le Père, afin que le Père soit glorifié. J'ai terminé, je vous propose de prier pour finir. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les mauvaises raisons que nous trouvons de ne pas prier. J'ai pas le temps, j'ai pas envie ou j'ai trop honte. Et nous prions que tu nous aides, Seigneur, à prier pour de bonnes raisons. D'une part parce que tu es souverain et que ta souveraineté permet que nous prions. D'autre part, en vertu de ta grâce, parce que tu nous demandes et que tu nous permets de prier et de participer ainsi à l'accomplissement de tes plans, de tes projets pour le monde. Et enfin, parce que la prière est efficace au nom de Jésus. C'est ainsi au nom de Jésus, et pour que le Père soit glorifié, que nous te demandons de nous aider à mettre en pratique toutes ces choses dans notre vie de piété personnelle et de prière. Amen. Amen.